c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière.
Il n'y avait donc rien dans le journal de ma mère. Rien de sa vie d'après. Un silence assourdissant. À l'image de cette condition de femme au foyer, si discrète et invisible, à force d'être ordinaire. Partagée pourtant par des millions de femmes après-guerre. Des femmes invitées à retourner à leur fourneau pour laisser la place aux héros, aux soldats, aux prisonniers revenus travailler. Et sommée de procréer pour la nation. L'injonction se dissimule habilement derrière le conte de fées de la merveilleuse vie de femme au foyer. Mais quand vient le temps de vivre cette fable, c'est une autre histoire. La réalité, je l'ai retrouvée dans le secret de quelques journaux intimes, tenues par des femmes tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Grâce aux détails de leur vie, de leur joie, de leur peine, posées sur des images amateurs, voici racontées par elles-mêmes l'histoire oubliée des femmes au foyer.
Comment en suis-je arrivée là, à cette fatigue, cet ennui? Toujours les mêmes choses, les mêmes gestes. Une vie si quotidienne. Aucun enthousiasme et guère de temps non plus. Que s'est-il passé pour que ma vie m'échappe à ce point? Petite fille, j'ai toujours rêvé mariage, maison, enfant. Après la guerre, c'était le destin de toutes les femmes de toute façon. Que nous ayons fait des études ou pas, que nous soyons riches ou sans le sou, fonder un foyer était le seul avenir autorisé. Et comme les autres, je m'y suis conformée. J'ai dansé avec lui toute la soirée. Il m'a demandé si l'on pouvait se revoir le lendemain. Il me plaisait. J'avais 23 ans, j'étais amoureuse. Et certaine qu'ensemble, nous accomplirions des miracles.
Le récit d'Anna, comme celui des autres femmes, est troublant. Car toutes semblent raconter une même histoire. Des vies singulières et pourtant soumises aux mêmes rêves, aux mêmes règles, celles de leur temps. Dans l'Europe d'après-guerre, même si les femmes ont presque partout obtenu le droit de vote, les rôles de chacun ne sont pas tout à fait les mêmes. Aux hommes, la conquête du monde. Aux femmes, la conquête d'un homme. Lui n'a pas besoin d'elle pour se voir considérée comme un être accompli. Elle sait que sans un mari, elle sera jugée incompétente, imparfaite. Comme le souligne Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, la plupart des femmes sont alors mariées, l'ont été, se préparent à l'être ou souffrent de ne l'être pas.
Ça y est, je suis mariée. C'est comme si j'avais grandi tout d'un coup. C'est magique et terrifiant. Le plus beau jour de ma vie, comme on dit. C'est aussi celui de papa et maman. Les voilà rassurés de me voir casée.
Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
J'ai toujours été une bonne fille et maintenant, je désire passionnément devenir une bonne épouse. Je n'ai pas envie de rentrer ici dans le détail, mais la nuit de noces n'a ressemblé en rien à ce que je m'étais imaginé. Une déception que la découverte de Venise m'a aidée à surmonter. Fin du séjour. Nous sommes amoureux. Et il ne nous reste plus qu'à apprendre à vivre ensemble.
Nous n'avons pas grand-chose. Enfin si, tous les magnifiques cadeaux de la liste de mariage. Mais aucun meuble, à part mon lit bien étroit de jeune fille. Nous allons donc à la foire commander un bahut, une table et 4 chaises pour la salle à manger. J'apprends à découvrir ma ville d'adoption. Mon mari, la seule personne que je connais, est maintenant absent toute la journée. Les heures sont longues jusqu'à son retour. Et l'arrivée prochaine d'un bébé estompe un peu ce mal-être que je ressens.
Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Telle était la promesse que toutes les petites filles avaient entendu rabâcher à chaque fin d'histoire. Sans jamais voir représenter la suite et sa réalité. Et pourtant, elle dessine les destins. À cette époque, l'union célébrée par le mariage est en fait une annexion. La jeune femme renonce au nom qui a été le sien toute sa jeunesse. Elle se place sous l'autorité de son mari pour ouvrir et gérer son compte en banque. Elle ne peut travailler sans son accord et doit le suivre là où son métier l'emmènera. Enfant, le monde était son royaume. Aujourd'hui, elle est simple gardienne de celui de son époux.
Je ferai tout pour être une bonne mère. Mon homme dit que le bonheur est simple. Que vivre et être heureux ensemble, c'est ça la vie. Et que par conséquent, écrire est devenu superflu.
N'importe comment, il y a là une mine de petits agacements.
Et les journées sont longues et bien remplies. Je suis levée à 6 heures du matin et pas couchée avant 22 heures. C'est l'usine. Je n'ai pas une minute à moi. Je déteste particulièrement faire la lessive. Avec le linge dans la baignoire, sur une planche, avec une brosse. Comme les lavandières au bord de la rivière. Ça me casse le dos. Cette absence de confort me pèse maintenant depuis 3 ans. Je me donne un mal fou pour me maintenir à la hauteur de cette magnifique image de moi-même. Moi, l'épouse... Moi, la mère. L'autre jour, j'ai dit à une vieille voisine que la naissance d'un enfant est ce qu'il y a de plus important. Le fondement animal de la vie. Elle m'a répondu une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Vous êtes sûre que vous n'avez pas envie d'être plus qu'un animal? Peut-être, mais mon Dieu, je les aime, ces enfants. Mais je ne peux empêcher la moindre parcelle de mes pensées de se tourner vers eux. Et mon mari.
En acceptant de se consacrer à leur mari et leurs enfants, ces jeunes femmes font don de ce qu'un être humain possède de plus précieux, son temps. L'intégralité de leur journée appartient désormais aux autres, fragmentée en milliers d'occupations. Les minutes se succèdent et s'empilent comme les mouchoirs repassés, les assiettes lavées, les chaussettes reprisées, dans un mouvement éternellement recommencé. Aucun barreau ne clôture la maison d'une femme au foyer. Aucune serrure ne la tient enfermée. Ce sont les heures qui s'en chargent.
28 juillet 1956. Cette année, l'Assemblée nationale a voté la 3e semaine de congés payés. Cadeau inespéré qui nous permet de laisser les enfants quelques jours chez maman et de prendre du temps pour nous deux. Quel bonheur de nous retrouver. Nos relations sexuelles sont toujours aussi fortes et satisfaisantes. Et c'est sans doute là la grande force de notre couple. Qui fait d'ailleurs l'envie de certaines de mes amies.
Mercredi 30 août. Mon carnet de Moleskine révèle le détail de nos dépenses pour l'emménagement dans la nouvelle maison. Notre premier frigo nous coûte quand même l'équivalent d'un mois de salaire. Je vais devoir attendre encore pour le lave-linge. D'autant que monsieur a insisté pour que l'on achète un poste de télévision.
Je suis sûre que tout le monde en reprend.
Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ben, je vais en manger tellement que je serai grand comme les géants.
Quand je fais de la purée moussée, je suis sûre que tout le monde en reprend.
Quand je vois ces femmes à la télévision, je bouillonne de colère. Jeune fille, j'étais la première à y croire. Maintenant, je mesure la distance entre mes rêves et la réalité. Je ne me retrouve pas dans cet idéal d'épouse heureuse et épanouie dans son intérieur. J'ai parfois l'impression d'être le dindon de la farce. Un dindon pimpant dont on attend qu'il consomme.
Au moment même où les hommes se lancent à la conquête de l'espace, où les Cubains font la révolution, où Andy Warhol et Roy Lichtenstein inventent le pop art, la publicité et les magazines féminins enferment les femmes entre les quatre murs de leur maison. Faisant d'elles, dans nos mémoires, de ravissantes idiotes éternellement satisfaites. Cette propagande les place au cœur de la révolution consumériste des Trente Glorieuses. Plus rien ne doit se fabriquer à la maison, tout doit s'acheter. Les avancées technologiques permettent de remplacer d'anciennes tâches ménagères par du prêt-à-porter, du prêt-à-consommer. De productrices, les femmes au foyer deviennent consommatrices en chef. Merveilleuse et habile illusion de souveraineté.
Et pourtant, mesdames, un projet de réforme sur les régimes matrimoniaux sera présenté à l'Assemblée nationale tendant à faire de vous l'égal de l'homme. Comment ?
Eh bien, voici. Auriez-vous, madame, quelque argent, fruit de vos revenus, à placer ?
Pardon, monsieur. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse ?
Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale, à moins que vous soyez femme séparée.
Sachez que cette autorisation ne sera plus nécessaire et que le nouveau régime matrimonial permettra aux épouses d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint.
Madame, que pensez-vous de ce projet de loi ?
Je pense qu'il constitue un progrès indéniable par rapport à la situation actuelle qui se trouve à peu d'exceptions près, encore régie par le code Napoléon, qui remonte tout de même maintenant à quelque chose comme 165 ans.
Et les principaux intéressés, que pensent-ils ?
Tu peux signer ton chèque maintenant, tu vas tout seul, oui. Sans prévenir ?
C'est-à-dire qu'on est un peu plus libre déjà de faire ce qui nous plaît, sans le consentement du mari.
Elle peut ouvrir un compte bancaire sans demander l'autorisation, elle est tout à fait libre maintenant.